Merci d'écouter les programmes de Studio Kalangu. Il est 18h passé de 15 minutes. C'est l'heure du forum de Studio Kalangu, votre émission qui vous apporte des réponses aux questions que vous vous posez quotidiennement. Le travail des professionnels de santé dans la lutte contre la COVID-19 au Niger, quel impact sur leur vie? C'est le thème du forum de ce jour. Dans le monde entier, les médecins, les infirmiers, les infirmières, les soignants et les ambulanciers sont confrontés à une charge de travail dans des établissements de santé débordés avec promission. Fournir un service lié au maintien à l'amélioration de la santé des individus pour ne citer que cela. Et depuis l'apparition de la maladie à coronavirus, de par nos différents constats sur le terrain, ces professionnels de santé sont en première ligne dans la lutte contre la COVID-19. Ils travaillent dans des environnements de travail stressants et effrayants et n'ont pas assez de temps pour leur propre famille. Alors, comment les professionnels de la santé travaillent-ils pour lutter contre cette maladie au Niger? Quels sont les obstacles et défis à relever? Quels sont les impacts de leur travail sur leur vie privée? Comment les aider à tout surmonter autant d'interrogations auxquelles nous tenterons de trouver des réponses avec nos invités présents dans ce studio? Il s'agit de Dr Hanky Yahaya, il est médecin infectiologue à l'hôpital national de Niamey. Bonsoir docteur.
Bonsoir.
Major Inous Garba, il est infirmier à l'hôpital de référence de Niamey. Bonsoir à vous.
Bonsoir madame.
À la présentation, Nafis Adam Sirfo. Merci, chers invités, de nous avoir honorés de votre présence dans ce studio. Dans un rapport d'Amnesty International publié le 27 juillet 2020, il ressort que plus de 3000 personnes travaillant dans le domaine, dans le secteur de la santé, sont décédées des suites de cette maladie dans 79 pays du monde entier. Malgré toutes ces contraintes, les agents de santé que vous êtes restent en première ligne dans la lutte contre cette maladie pour sauver la vie des patients. Alors, je commence par vous, docteur Hanky. Vous êtes médecin à l'hôpital national de Niamey. Vous êtes infectiologue. Tout d'abord, dites-nous quel est le rôle que vous jouez pendant cette pandémie de COVID-19.
Merci. Merci, Nafisa. Permettez-moi de remercier sincèrement le studio Kalangu. Merci beaucoup. Qu'est-ce qu'on fait dans cette maladie? C'est extrêmement, c'est beaucoup à dire, mais pour résumer, mon travail, notre travail en tant qu'agent de santé, première des choses, avec la COVID, on a d'abord cherché à éviter que ça arrive au Niger. Donc, on a, depuis les premiers jours de la maladie en Chine, avant même que ça arrive en Europe, en Afrique, on a mis des cellules qui ont cherché à bloquer, à limiter la propagation dans le pays. Donc, on est parti à l'aéroport un peu partout. On a fait ce travail-là. Et quand ça a commencé à venir, quand on a eu notre premier cas, et maintenant, c'est en ce niveau-là que le travail a véritablement commencé. Parce qu'en ce moment, on était avec ces malades-là. On les a repérés, on les a prélevés, on les a traités, on les a hospitalisés, on les a suivis avec mon collègue major qui est là. On a suivi ce traitement-là. Maintenant, qu'est-ce qu'on a fait concrètement?
C'était pas du tout facile.
C'était pas du tout. Non, quand on parle facile, ça veut dire qu'on pense que c'est plus que difficile. Je ne sais pas si je dois rentrer dans tous ces détails, mais écoutez, d'abord, les gens ne reconnaissent pas cette maladie-là. Les gens même qui sont malades, quand quelqu'un est malade et qu'il pense qu'il n'est pas malade, tu ne peux pas aider quelqu'un qui ne reconnaît pas ce qu'il a. Deuxièmement, les conditions dans lesquelles tu dois traiter cette personne, toi-même, tu n'es pas sûr de jusqu'à quel point tu t'exposes. C'est extrêmement compliqué de traiter une maladie que tu ne sais pas au juste ce que ça va te donner.
C'était une situation, si on peut le dire, que vous n'avez presque jamais connue.
Personne, bon, presque jamais connue, oui, c'est presque, trop dit. Oui. Mais qu'on ne s'attendait pas à ça.
Voilà.
Deuxièmement, on était avec des collègues, des agents de santé, qui n'étaient pas préparés. Donc, ceux qui sont avec nous se demandent, mais pourquoi moi? Qu'est-ce que je vous ai fait? Pourquoi vous? Parce que j'ai fait partie des gens qui ont identifié les agents de santé qui doivent faire ce travail-là. Pourquoi moi? Pourquoi vous allez nous faire ça? Et troisièmement, encore plus grave, on a d'autres collègues qui pensent qu'on sait choisir entre nous pour faire de l'argent. Oui. Pensent qu'on bouffe de l'argent. Oui. Donc, tous ces aspects-là, si on doit les développer, c'était... pour dire que c'était extrêmement difficile.
Donc, avec l'arrivée de cette maladie, la COVID-19 au Niger, peut-on parler d'une masse de travail accrue?
C'est plus qu'une masse de travail accrue. C'est un débordement, si on peut le dire. Parce que un seul patient, un seul cas positif, imaginez un patient que tu ne peux pas aller l'examiner dans ton bureau, assis à l'air, tu ne peux pas le toucher, tu ne peux pas lui faire les injections ou déposer. Vous êtes obligé de planifier des heures et des heures pour un seul patient. Les médecins passent, l'infirmier s'habille, il passe, l'hygiéniste vient, les agents d'hygiène, ceux qui doivent laver, ceux qui doivent nettoyer. C'est extrêmement compliqué en termes de temps pour gérer une seule personne. Et si vous rentrez chez un malade, vous êtes obligé de ressortir tout, déballer tout, pour aller encore chez un autre, ainsi de suite. Ça prend un moment de temps. Par rapport à ça, je ne sais pas, peut-être que vous allez passer à mon collègue. Lui, il a été le major qui a géré le service de COVID.
D'accord. Alors, Major Inoussa, je rappelle, vous êtes infirmier à l'hôpital de référence de Niamey. Comme docteur Hanki, le travail aussi s'est-il intensifié de votre côté avec l'arrivée de cette maladie, la COVID-19 au Niger?
D'accord. Merci, madame, d'avoir pensé à nous, parce que là, c'est un soulagement, je souligne au passage. Et travail s'est-il intensifié? Parce que je n'ai que ça pour, comme mot, sinon j'allais chercher plus. ça n'a pas été du tout facile, et à tous les niveaux. Travailler dans les centres de santé, ça c'est notre boulot, c'est notre choix, c'est notre passion aussi.
Effectivement.
Donc au-delà, c'est un serment. Mais le cas de la COVID, c'est particulièrement très différent de ce qu'on a l'habitude de vivre. De par le passé, on a eu à gérer des épidémies.
Effectivement.
Mais la différence avec la COVID, c'est que sur le côté stigmate, il est énorme. Et comme l'a si bien dit mon docteur ici présent, rien que les collègues agents de santé qui n'étaient pas en première ligne, parce qu'au tout début, c'est vrai, c'est pas tout le monde qui était formé pour accueillir cette maladie. Donc la petite minorité là qui était désignée pour le faire, au tout début, chacun pensait que c'est son travail à elle seule. Et vous voyez ce que ça fait. Ton collègue prochain qui le premier normalement doit tapis. Si lui, on est d'accord que leur comportement s'est justifié, parce que quelqu'un qui n'a pas été formé. Et vu la façon dont ça a été aussi médiatisé, la compréhension de cette maladie a donné une autre version, un autre regard de la maladie. Parce que les gens s'attendaient à voir les cadavres jonchés, les rues, comme on a vu dans les médias, pays, pour croire. Donc, comme l'a si bien dit, docteur, si déjà celui qui est censé être traité ne croit pas, ton collègue prochain a de la crainte. Toi-même, tu as certaines craintes. C'est parce que tu ne peux pas, toi aussi, désister, parce que c'est un choix. On s'assume. Comme on dit, nous sommes ceux-là de la santé et on s'assume. Mais accroître la charge du travail, ça, c'est comme ça. On était major dans les services. On travaille. Qui dit major dit coordonné, parce que coordonné patient, coordonné médecin, coordonné infirmier,
oui, l'administration, la mission,
tout ça,
oui.
Là, elle est grande. Mais maintenant, c'est venu encore accroître la charge, parce que il y a le monde extérieur. J'ai dit le monde extérieur, parce que les patients là, qui sont là, à la différence des patients ordinaires que nous vivons, un patient COVID, il est plus stressé, irrité que tous les autres patients. D'accord, c'est pas tout le monde, mais la majorité, il y en a qui sont même agressifs. Et on a le devoir de rompre la chaîne. tu as un patient qui est agressif. Donc, du coup, pour lui demander de respecter certaines barrières, c'est un peu compliqué.
Manières, oui.
Il y a des manières. Donc, ça prend beaucoup de temps, beaucoup de temps, beaucoup de temps. Et autre chose, de l'autre côté, la famille, parce qu'elle s'est vue refuser l'accès à son parent. Et tu t'es dit que moi, je suis bien portant. C'est ce qu'il dit. Je suis bien portant. Je n'ai rien sur moi. Et maintenant, on me met dans les quatre murs, on me dit de m'asseoir. Dis donc, mais vous voyez, c'est compliqué.
C'est compliqué.
Or, si c'était des patients ordinaires, le suffira de, ils sont venus librement, délibérément. Donc là, on leur dit de faire, ils le font. Les consignes, ils exécutent. Tout, voilà, c'est un des, une des raisons du monde qui ont fait croître notre peine de la prise en charge.
D'accord.
Et comme elle a si bien dit, le matériel qu'il faut utiliser, il faut beaucoup. Dans le temps, on s'habille dans sa tenue de bloc avec sa blouse, on va faire le tour de télésal. Mais maintenant, c'est un patient, une tenue. Je voulais dire les combinaisons. Vous voyez, là aussi, c'est tellement protocolaire.
Après chaque traitement, il faut que le médecin change de tenue.
Change de tenue.
Voilà.
Et d'une salle à une autre. Vous voyez,
c'est
donc,
très compliqué.
Vous ne pouvez même pas rentrer seul pour suivre un patient. Il faut toujours quelqu'un qui va désinfecter. En tout cas, c'est tout un
c'est toute une chaîne,
toute
oui.
Une
et,
chaîne.
Puis, voilà.
Et voilà ce qui, du coup, ça a vraiment surchargé. Si je me résume, la charge de travail était énorme. Mais maintenant,
oui.
Je ne sais pas si je dois trop aller.
On sinon, va, oui, continue.
Rien que l'agent, lui, je vais un peu me poser sur les stigmates. Je parle au niveau de son centre de travail. Les collègues qui ne sont pas informés, parce que je préfère appeler ça comme ça, parce que c'est un défaut d'information, parce que maintenant, avec l'information, maintenant, c'est allé. Ceux qui ne sont pas informés, il avait en tête comme si c'est lui qui est censé dégérer le COVID là. Il faut qu'il ait une énorme barrière entre lui et les autres.
Et les autres, oui.
Mais pourtant, les prédispositions qui sont prises,
lui là,
qui est
oui.
Le site qui est le mieux protégé que celui qui est hors du site.
Effectivement.
Pourquoi ? Parce que là, il a le droit d'utiliser sa barrière comme il entend. Vous êtes d'accord avec moi ?
Oui.
Vous ne pouvez pas aller en ville utiliser certaines barrières. Les gens vont vous regarder autrement. Vous serez à la tout le monde la risée de ces gens-là. Mais donc, celui qui est sur le site, imaginez, chaque temps, on désinfecte. On a des appareils d'infection dans les salles. On a les trucs de barrières. Donc, c'est celui-même qui est sur le site qui est mieux protégé que celui qui ne l'est pas. Mais par défaut d'information, on voit en celui qui est sur le site, l'agent vecteur, même pas même, c'est même lui qui peut transporter la maladie.
D'accord.
Et voilà ce qui était vraiment.
Alors, ok. Docteur Hanky, on sait que nous avons toutes des familles. Vous avez de la famille qui, naturellement, a besoin de vous, mais le travail oblige. Il arrive que les agents de santé passent des nuits, des semaines, restent au chevet des patients. Qu'en est-il de votre cas?
C'est extrêmement difficile. Moi, je suis médecin. Et en tant que médecin, je ne faisais pas partie de ceux qui passent la nuit là-bas. Mais étant dans la coordination et dans la prise en charge à tout moment, à n'importe quelle heure,
on faisait appel à nous.
Et pire, tu as un seul patient pour qui on t'appelle à 23 heures, c'est fini, ta nuit est foutue. Vous restez là-bas très longtemps. Et encore, d'ailleurs, je préfère que ça soit depuis très tôt, dans la journée, l'après-midi, jusqu'à un peu. Qu'on vous appelle au-delà de 22h, 23h de chez toi.
C'est toute la nuit donc.
Et il n'y a personne. Il n'y a pas de voiture pour te prendre. Tu dois te débrouiller avec toute l'insécurité. Quand tu dis à ta femme tu vas sortir à certaines heures, c'est l'inquiétude. Qui va t'accompagner? Qu'est-ce qui va se passer? Et encore. Quand tu perds énormément de temps, tu reviens à la maison. C'est encore le stress. Toi-même d'abord, qu'est-ce que je vais amener dans ma famille? Est-ce que je ne vais pas contaminer ma femme?
La crainte d'amener le virus dans la famille.
Je ne dis pas qu'elle exagère, mais ma femme, chaque fois, dès que je sors, elle amène eau de Javel dehors à la toilette. Quand je viens, malgré que j'échange mes habits, là, je les enlève. Quand je reviens, je dois passer d'abord dans la douche externe. Douche externe, hein. Je me déshabille là-bas. Elle m'a déposé d'autres que je vais porter. Ce que j'ai là. Mais j'ai perdu pratiquement tous mes habits. Elle plonge ça dans l'eau de Javel.
Psychologiquement, c'est stressant.
Oui, elle plonge ça dans l'eau de Javel, quel que soit l'heure que je viens. Ça, tous les jours, c'est comme ça. Et mes enfants, chaque fois, elle dit non, 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 il faut plus s'allier avec votre papa. Non, 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 laissez-le d'abord. Il y a une certaine. Ça me fait mal. J'ai envie d'être en contact avec mes enfants.
Le travail oblige.
Tu fais faire une semaine sans prendre un de tes enfants. C'est extrêmement compliqué.
C'est difficile. C'est difficile.
C'est difficile. Donc, vie de famille, ça a beaucoup perturbé notre famille. Beaucoup.
D'accord.
Tu ne peux pas manger quand tu veux. Tu ne peux pas être avec ta famille quand tu veux et comme tu veux. Ça a été extrêmement difficile avec pour notre vie de famille.
Et même sur les lieux de travail, dans la société même, comment c'était?
C'est encore pire. Au Niger, il y a ce que nous appelons nos fadas. Et on était dedans tous les jours. Moi, pratiquement tous les jours, entre 18h jusqu'à la prière, on prie ensemble la prière de Maghrib à Isha et chacun rentre chez lui. Depuis que Covid a commencé, ils ont eu le courage. Et ça, je le reconnais. Ça. Ils m'ont demandé pardon, docteur. On va t'appeler tous les jours. Tu vas nous appeler, on va se voir, mais
pas d'Allah.
Et j'ai fait plus de 2 mois, je ne partais pas à ma fada. 2 mois. Là où je pars pour me distraire, pour me dire. Moi-même, non, j'étais d'accord
le
avec
lui. Le social était perdu.
Un jour, je sortais de l'hôpital de référence. Il y a un vieux qui sortait lui aussi. Il marchait, il m'a arrêté. Mais j'ai eu le réflexe. Parce qu'à ce moment, pendant cette période-là, on avait peur sincèrement de contaminer les gens. Mais dit, il veut qu'on l'approche au goudron. J'ouvre le portier, je lui dis de rentrer après. Il dit, mais vraiment, je travaille là où il y a la maladie. Il dit, non, 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 ça va. Personne ne rentre dans ta voiture. Personne ne veut s'asseoir à côté de toi. Agent de santé, ta famille, tes amis, on était coupés totalement.
Dieu merci, maintenant, on enregistre moins de cas. On peut dire que la situation s'est un peu allégée. Comment ça se passe actuellement? Comment ça se passe?
Maintenant, c'est extrêmement relax.
Voilà.
C'est extrêmement relax. À un certain moment, le travail était tel qu'on était obligé de diviser ça en plusieurs secteurs. Il y a ceux qui sont vraiment malades, qui sont hospitalisés, gérés par eux. Il y a ceux qui ne sont pas très symptomatiques, qu'on suivait à domicile, qui reste ce jeu, on part. Ça aussi, je vais revenir là-dessus parce que ça a été très grave.
D'accord.
Et il y a carrément plusieurs équipes que malgré tout, c'était très triste. Maintenant, tout ça est fini.
D'accord.
C'est quelques patients qu'on suit à domicile. Il y a plusieurs sites de prise en charge. Ce n'est plus uniquement la référence. Il y a ceux qui ne sont pas très malades qu'on suit à l'Amordé. Il y a un site de prise en charge qui est pratiquement fermé. Et le stade, ça, c'est vraiment relax maintenant.
D'accord.
Je disais par rapport aux malades qu'on suivait à domicile.
Oui,
ça, c'est par rapport à l'aspect tant que je voulais venir là-dessus. J'espère que des personnalités importantes de ce pays vont écouter ça.
On l'espère
parce que
bien.
Ça fait très mal. Vous connaissez Niamey là. Quelqu'un peut être malade, être vers Lazaret. Un autre va être vers l'aéroport. Ainsi de suite. Tu pars
éloignés.
De l'autre côté. Un malade, on l'a prélevé, on le dépiste, on l'appelle, on lui dit il est malade. Il veut qu'à l'instant là,
qu'on vienne
le traiter. Et ils vont commencer à t'appeler, à te harceler, jusqu'à t'insulter. Il faut que tout de suite, non mais c'est des foutais ça. Depuis combien de temps? Ça fait plus de 30 minutes, on m'a dit que je suis malade, personne n'est venu me voir. Tu cours à gauche, à droite, à plusieurs reprises, tu évites des accidents. Tu es obligé d'aller expliquer. Et si tu donnes le traitement à quelqu'un, tu as peut-être 10 malades que tu suis de la journée. Il commence à avoir quelque chose dans la tête. Il veut qu'à l'instant T, là, tu reviennes encore chez lui.
Pour lui donner d'autres.
Pour lui donner encore autre chose.
C'était
ça
pas
a été
facile.
Très, 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 très difficile.
Major Inoussa, comment c'était de votre côté? Comment vous avez géré cette situation en famille? Comment c'était?
Oh, merci, madame. Mais je crois qu'on va un peu juste extrapoler. Parce que là, on ne finira jamais. Mais je profite pour souligner au moins 2 à 3 situations qui m'ont marqué. Ça, peut-être, ça serait une histoire de ma carrière. Pour moi et pour les collègues, parce que je n'allais pas être égoïste. En fait, si je prends moi mon cas, comme on l'a dit, c'était devant ma porte. Il y avait des gens là, ils viennent faire leur fada devant ma porte. Et donc, je prends de temps en temps pour souligner. Maintenant, quand je prends le virage D'abord, il se lève de vous. Arrête-toi là-bas. C'est ma porte. Hein. Donc, il faut qu'il se dégage pour que je rentre.
Vous
voyez, ce n'est pas très agréable. Quoi. Autre chose, mes petits-enfants viennent courir vers moi. Je ne pouvais pas les prendre. Il faut qu'on les retienne. Ils pleurent. Mm-hmm. Vous savez, fils.
Il faut nécessairement laver vos mains, vous désinfecter.
Et les collègues, on dit, un tel a passé par là. Donc, la voile risque d'être mettre Croix-Rouge en un certain temps. Parce qu'on pense que quand je passe, j'infecte les passages. Vous voyez, ça là, ça frise. Dieu merci quand même, on a le support des grands frères, des médecins. Et comme on a aussi, on suppose qu'on est mieux informé que ces gens-là, peut-être c'est la raison de leur comportement.
Effectivement.
Mais ce qui m'a dérangé, il y a une collègue qui a failli perdre son foyer pour ça. Parce que le mari la menace de choisir entre le boulot
et la vie de foyer.
Et je sais qu'elle n'est pas la seule, mais c'est quand même un cas que je souligne ici. Donc, je crois qu'il y a de belles raisons de féliciter vraiment les dames, toutes les dames qui ont été avec nous. D'accord, nous les hommes, on a ces problèmes légers parce qu'on a quand même un peu une force sur le foyer par rapport aux dames.
Mm-hmm.
Mais je vous assure, ça n'a pas été facile. Je connais une seconde aussi qui est la famille a condamné de ne pas partir visiter sa maman malade parce qu'elle est Covid. Sa propre maman. Vous voyez bien que ce n'est pas du tout facile. Et on a les attaques des familles aussi de temps à autre parce qu'on dit qu'il ne faut pas accéder aux patients. Il y en a qui ont décidé même d'aller agir sur nous, on ne sait comment, parce qu'ils pensent qu'on les a manqués. Tout de même, nous, on continue de la sensibilisation. On n'a pas le droit quand même à l'horreur parce qu'il ne fallait pas laisser quand même la maladie continuer. Nous, on s'est engagés pour mettre une barrière et Dieu merci.
En termes de stigmatisation relativement à votre travail, comment vous arrivez à surmonter cela?
Bon, moi particulièrement, nous à l'hôpital des références, quand même, on a la chance, même si les violences sont, elles ne sont pas assez parce qu'on a quand même, on est suffisamment sécurisé. Ça, je ne doute pas. On a quand même une protection sécuritaire. Ça, on n'a pas vécu beaucoup de stigmates du côté violence. La violence, patients sont rien, ça, c'est tous les jours. On gère. Mais c'est de l'externe, je vous dis, il y a des familles que pour les avoir refusé l'accès, souvent, ils menacent, ils disent, c'est nous un tel, c'est moi un tel, bon. Heureusement, quand on porte aussi aux administrateurs à notre hiérarchie, on nous a toujours quand même protégé. Ça, je profite pour les féliciter sur ce plan qu'on n'a pas, ils n'ont pas failli.
D'accord,
ils ont
d'accord.
vraiment vu le jeu.
Et sur votre lieu de travail même, quelles sont les difficultés auxquelles vous vous êtes confrontés dans cette lutte, en cette pandémie de la COVID-19?
Bon, en fait, le problème, ça ne peut pas manquer. Mais au tout début, il y avait un certain moment où on avait des problèmes de matériel, donc de combinaison, qui n'a pas aussi duré. Parce que en fait, j'imagine qu'on n'a pas pensé que cette maladie allait arriver jusqu'à ce point. Et ce qui a été prévu pour nous, ça n'a pas été à la hauteur. Parce qu'à un certain point, un boom était venu. Donc on a vécu des moments où on a été un peu parcimonieux dans la gestion du matériel pour que ça aille. Mais après, tout ça, là, c'est arrivé.
D'accord.
Maintenant, en tout cas, on a suffisamment de matériel. Et depuis cette petite période-là, je sais que quelque chose qui est dur, il n'est jamais petit aux yeux des gens. Il y en a qui vont trouver que j'ai mal parlé pour avoir dit que c'est une petite période. Mais vu l'ampleur, vu ce qui s'est passé, moi, je suppose que c'était une petite période de manque de matériel. Et après, c'est...
Donc, comme l'a dit Dr Hanky, la situation, elle est stable maintenant.
Elle est stable, voilà. Vraiment stable.
Oui, docteur, vous voulez...
Non, c'est par rapport aux les difficultés.
Oui.
Bon, je sais pas, c'est pas des difficultés genre parce qu'on n'a pas de matériel, mais c'est des difficultés dues à nous-mêmes. À chaque instant, tu te dis, est-ce que je suis pas malade? Il y a ce qu'on appelle les thermoflasques pour prendre la température. C'était devenu comme une... je ne sais pas comment, une psychose. Chacun que tu vois,
un réflexe.
Il cherche à savoir ma température.
Comment,
quand tu touches, qu'est-ce qui se... Dès que tu touches dans le, parmi tes collègues, tout le monde
te regarde. Oui.
Et à l'époque, dès que quelqu'un est positif, on cherche toute sa famille, on cherche tout son entourage.
Les
on cherche
personnes
tous les
qui
contacts,
sont rentrées en contact, oui, tous les contacts.
Et moi, ce qui m'a le plus stressé dans cette affaire, j'ai un élève, j'ai un enfant qui fait le bac. Tout mon stress, c'est de ne pas être dépisté positif. Si on me dépiste positif, on va isoler toute ma famille, il ne va pas à l'école. Il va...
Voilà, ça va impacter sur son cursus scolaire, effectivement. Alors, les travailleurs de la santé, comme l'ont si bien dit nos deux invités présents dans ce studio, sont confrontés à un stress mental considérable. Ils font face à plusieurs situations, des patients qui souffrent, d'autres qui succombent au virus sous leurs yeux. Pour cela, nous avons interrogé M. Sidikou. Il est psychologue à l'hôpital national de Niamey. Il nous analyse l'impact psychosocial du travail sur les agents de santé sur leur vie en cette pandémie de la COVID-19. On l'écoute.
Le premier impact, c'est le stress. Ce stress, parfois, les inhibe même dans leurs activités quotidiennes. Et en plus de ce stress, ils ont des difficultés dans la famille. Ils ont peur, d'abord, ils sont angoissés d'être contaminés et de contaminer la famille. Et en plus de ça, ils ne sont pas très présents dans la famille. Pendant cette période de pandémie, ils n'ont pas de samedi, dimanche, ils n'ont pas 26 jours de repos. Et parfois, ils rentrent à la maison tardivement. Il y a ceux qui ont même, qui pensent qu'ils sont en contact permanent avec les malades de la COVID. Ils se confinent même dans les bureaux, ils ne rentrent pas à la maison. Donc, ils sont presque absents dans leur famille. Ça, vraiment, c'est un impact psychologique pour les familles et pour les agents de santé eux-mêmes. Tellement que ces agents de santé sont stressés, je disais tout de suite que parfois ils arrivent que c'est comme s'ils ont une pesanteur sur les épaules et ça les limite dans les activités. Non seulement ils ont le désir de bien faire le travail, et de l'autre côté aussi, il y a ce qu'on appelle l'autoprotection, l'autoprotection. Ils donnent plus d'importance à leur propre protection et aux patients. Ce qu'on connaissait, il y a la relation de confiance entre le patient et le médecin. Cette fois-ci, cette relation de confiance est un peu et devient comme une relation d'évitement. Mm-hmm. Parce que les agents de santé sont évités par les patients.
Et donc, qu'est-ce que vous recommandez? Comment soutenir ces agents de santé dans cette période difficile?
Oui, bon, les agents de santé sont stigmatisés. Pourquoi? Parce qu'on pense que parfois, les agents de santé qui travaillent avec les malades de la COVID sont même eux, peut-être ils sont des potentiels malades parce qu'ils peuvent être positifs à tout moment. Mm-hmm. Donc, il faut les éviter. D'un autre côté aussi, on pense que c'est des gens même qui sont complices par rapport à cette maladie. C'est parfois même si tu n'es pas infecté, les agents de santé peuvent te dire que tu es infecté. Mm-hmm. Parce que peut-être qu'ils profitent de la maladie. Dans la société, c'est la représentation qu'on se fait de ces agents de santé. Et à toute société, c'est de dire que d'avoir une bonne représentation des agents de santé, les agents de santé travaillent du point de vue de la rationalité, du point de vue de la science. Mmh. Il ne peut pas attribuer ou bien donner une étiquette de manière positive à quelqu'un qui n'est pas positif. Mmh. Parce qu'à un certain moment, on pense que si tu vas à l'hôpital, même si tu n'es pas positif, on va te dire que tu es positif. Mmh. Ou bien que même si ton malade décède d'une autre maladie, on va l'attribuer, on va lui donner l'étiquette donc de malade de COVID. Alors que ça ne se fait pas.
D'accord.
Ça ne se fait pas. Voilà, la science ne le permet pas.
Et pour finir, aux médecins, même aux agents même de santé en tant que tel, on sait que l'agent de santé a vraiment besoin de concentration pour bien faire ce travail. Donc, quel conseil?
Aux agents de santé, le conseil, c'est d'avoir une confiance en soi. Avoir une confiance en soi, avoir une bonne estime de soi et être confiant par rapport à ce qu'on fait, être sûr de ce qu'on fait et chercher à se protéger pour un peu abaisser le stress.
D'accord.
Parce que dès qu'on travaille sous stress, On peut aussi faire des gaffes.
D'accord. Alors, nous revenons dans ce studio. Je vous donne la parole à Major Inoussa. Que pensez-vous donc de ce que vient de dire le psychologue Sidikou Amadou?
Merci, madame. Donc, le psychologue n'a dit que le vécu exact de nous autres. En fait, quand il parlait que il y en a qui pensent que les agents sont complices de cette maladie. Rien que hier, je vous dis, il y a quelqu'un qui me posait la question parce que j'étais dans un garage là. Est-ce que réellement cette maladie-là existe? Vous qui êtes là-bas, vous avez réellement vu quelqu'un? Bon, en fait, ça veut dire que derrière ça, là, il y a toute une série d'idées.
Les préjugés.
Les préjugés. Parce qu'il y en a, une fois qu'ils sont venus, on a libéré un patient, il nous dit, mais il a compté le nombre de jours. Où sont ces 50 000? Parce que normalement, parce qu'il a accepté d'être confiné, on doit lui donner les 50 000. Et il y a des agents de réponse qui sont venus le jour-là, on leur dit que pourquoi ils cherchent les gens par individu, on leur donne 100 000.
100 000.
Non, c'est les préjugés. Je vous dis, c'est les préjugés. On parle des préjugés, bien entendu. Pour vous dire que c'est arrivé jusqu'à notre niveau qu'on parte chez nous demander l'argent parce qu'on pense que nous,
dans
on
la
a
société,
l'argent.
Donc, oui.
Et maintenant, les agents qui travaillent de manière directe dans la COVID et les autres, nous, on pense que maintenant, nous sommes en anti parce qu'on a tellement de sommes colossales. On est là, il y a l'argent. Le médecin qui est là, à pareil moment, il doit avoir des millions dans son compte parce qu'il fait la COVID. On n'a jamais pensé que c'est le côté serment, c'est le côté engagement qui fait que jusqu'à présent, les gens roulent. Côté préjugé, ça, c'est énorme.
C'est
nous,
énorme.
On reçoit chaque jour, même de l'intérieur du pays, des appels, des agents de santé qui nous disent, est-ce que nous, réellement, nous sommes convaincus de cette maladie? On a beau expliquer, mais ça, franchement, c'est un peu dommage parce que moi, si quelqu'un le fait qui n'est pas agent de santé, bon, c'est pas bien, mais c'est moins grave que si jusqu'à présent, les agents de santé ne croient pas à cette maladie. Et parce que si tout le monde prenait, imaginez là où on va, il faut pas attendre que ça devienne catastrophique pour croire parce que je crois que les exemples sont tellement édifiants, les cas sont tellement présents. Moi, je crois qu'il n'y a pas à discuter.
D'accord.
Il faut accepter que la maladie est là et il faut combattre. C'est, moi, je crois, le meilleur réflexe.
D'accord. Alors, docteur Hanki, quelle réaction après l'écoute de l'intervention du psychologue?
Bon, ça ne m'étonne pas. On était ensemble. Il était dans la... dans ce combat-là, lui aussi. Lui, il était surtout basé à l'hôtel Gaoué à l'époque, là où on faisait l'isolement des patients. Et il a dit exactement la réalité. C'est vraiment la réalité. D'abord, il y a ce côté autoprotection. Il a dit, c'est vrai. Avant, quand j'ai un malade, dans mon bureau, on se salue, je lui dis de s'asseoir, il me voit, il sait à qui il a affaire. Il n'y a aucun problème, le contact est là. Avec la COVID, d'abord, il ne va pas rentrer dans mon bureau. Je vais le voir quelque part.
Méfiance.
Je vais me couvrir. Peut-être qu'il ne sait même pas qui je suis. Je ne vais pas le salir. Je ne vais pas le toucher comme ça. Pour lui mettre même un stéto, je prends des gels, je désinfecte tout ce que je mets sur lui. Ça devient vraiment de l'autoprotection. Et par rapport à cette autoprotection, j'ai vraiment une anecdote
pour dire.
Dès le début de la maladie, dès que ça a commencé, la première personne suspecte. À l'époque, on était parti à l'aéroport pour mettre en place le système. Quand on nous a appelé pour dire qu'il y a un malade qui arrive, quand l'avion est descendu, on demande qui va voir la patiente. Personne.
Personne n'a voulu.
Tous les gens du ministère, ils le savent, ils m'entendent. Personne n'a voulu. On me regarde, ah, c'est l'infectiologue. J'étais obligé de m'habiller. Mais imagine ce que ça fait de, au
la
fond de moi-même.
Qui
même les gens de l'aéroport, ils m'ont juste aidé à évacuer l'avion. J'étais le seul. Ah, c'est moi seul qu'on veut tuer. Je suis rentré de l'avion, je l'ai récupéré. Heureusement, elle est négative. Donc, ça, c'est vraiment une réalité. Deuxièmement, par rapport à la stigmatisation, mais c'est terrible. Même tes propres amis te fuient. Quand toi, tu sais que maintenant, tu n'es plus à risque parce que tu te protèges, tu as compris la maladie, mais eux, ils ne vont jamais le comprendre,
effectivement.
Et il y a l'autre côté encore, ceux qui ne croient même pas. Tu veux aider quelqu'un. Tu penses parce qu'il est malade. Et lui, il pense que tu fais ça parce que quelqu'un veut te donner quelque chose. Parce que tu veux couvrir le gouvernement. Parce que tu veux... Tout ça, là, c'est
pas
extrêmement,
facile.
Extrêmement difficile.
Dans plusieurs pays, la population a entrepris des actions de soutien aux agents de santé. C'est l'exemple des pays européens comme la Suisse, la France, où la population a choisi des jours. Elle applaudit les agents de santé pendant quelques secondes, quelques minutes. Elle soutient, comment dirais-je, les agents de santé. Ici au Niger, est-ce que vous, agents de santé, vous recevez quelques... soutien venant de la population?
Soutien, non, jamais. Mais au moins, tes parents, tes proches, tes malades quotidiens te disent que Dieu vous protège. Ça, au moins, vraiment, il y a beaucoup de gens qui t'appellent, qui disent, j'ai appris, j'ai vu que Dieu vous protège. Mm-hmm. Alhamdoulilah, quand quelqu'un t'appelle pour te dire ça, tu sais au moins que là, cette personne-là, il t'aime, il veut te protéger. Mais,
venant de la société.
Souvent, venant de la société, je te jure, on a perdu un malade. J'ai eu la mauvaise responsabilité d'annoncer ça à la famille et d'organiser le transport du corps. Une personnalité importante de ce pays-là, dans le cadre religieux, m'a dit « Kouzou soran Allah, kouzou kouklaka moumoutane, abonne de basouda. » Moi, je pensais avoir fait du bien en essayant d'aider la famille pour ne pas contaminer d'autres personnes, pour avoir le plus de dignité dans la gestion de ce corps-là. Le gars, il m'a regardé dans le face pour dire « Kouzou soran Allah ». La société, les agents de santé n'ont jamais été supportés.
Mais selon vous, qu'est-ce qui explique cela? Qu'est-ce qui explique cela?
On ne peut que supposer. Ça a tombé à un moment où il y a beaucoup de problèmes dans la société. Ça a tombé à un moment où il y a beaucoup de problèmes religieux. Où on pense que l'Occident a beaucoup de choses pour détruire la religion, pour détruire nos pays, pour détruire... Donc, tous ces éléments ont fait en sorte que, malheureusement, cette maladie-là, on n'a pas pu. Et peut-être nous-mêmes, on n'a pas eu la meilleure façon pour expliquer, pour faire comprendre la population. C'est sûr qu'on a eu des ratés dans la gestion de cette maladie-là, nous, agents de santé et les responsables du ministère. Mais c'est beaucoup plus des préjugés suivant ça. Parce que quand je prends juste une et deux situations, moi, en tant que malade infectiologue, j'ai eu à gérer beaucoup d'épidémies. Personne ne m'a jamais dit à la télé, montre-nous d'abord des malades méningites pour qu'on croit. Personne ne nous a
jamais dit, avec la COVID,
tous les jours, j'étais obligé de dire là aussi à un adulte, est-ce que si ton père est malade, tu vas accepter qu'on le montre à la télé pour dire voilà le malade?
D'accord. Alors, Major Yinoussa, le soutien de la famille aussi, est-ce le seul pour vous, pour surmonter ce stress, tout ça? Est-ce que vous arrivez à avoir aussi d'autres soutiens ou bien c'est seulement venant de la famille?
Dieu merci, la famille quand même m'a soutenu. Et là, je parle même de la famille large. Juste même la famille qui n'est pas là, ils m'ont supporté. Mais aussi, je félicite les collègues. Ils sont mon second soutien.
D'accord.
Mais ce serait encore ingrat de ne pas souligner certains parents des patients qui ont fait leur gratitude. Qui jusqu'ici nous appellent pour nous remercier. Il y en a qui l'ont fait sur place et il y en a qui continuent à le faire. Mais de l'autre côté, comme l'a si bien dit Dr Hanky, moi, pour avoir annoncé un dossier, j'ai été suffisamment menacé. Jusqu'à ce qu'il y en a qui parlent, ils vont porter plainte. Bon, ils sont libres de le dire, mais la loi ne les appartient pas aussi parce que là, moi, je n'ai fait que mon boulot. Au lieu d'estimer mon courage, vous voyez, c'est tellement difficile. Mais sinon, comme le docteur l'a dit, la famille, Dieu merci, elle nous a supportés.
D'accord.
Les collègues, en tout cas, ils étaient toujours derrière nous. Moi, je félicite quand même notre hiérarchie qui nous a jamais lâchés. Mais la société avec grand S là, je pense pas.
D'accord. Alors, comme nous sommes presque à la fin de cette émission, donc quelles sont les mesures que vous continuez de prendre pour vraiment mettre à l'abri votre famille et vous-même vous mettre à l'abri quoi, et éviter vraiment tout le stress sur votre lieu de travail?
Oui, éviter stress. Peut-être alléger, mais éviter, je crois que c'est trop dur. On ne peut pas éviter ce stress. On va s'adapter à ce stress et on peut alléger. Parce qu'avec le temps, je suis d'accord que la majorité de nos collègues, quand même, a compris.
D'accord.
Et c'est bien vrai qu'à un certain moment, il y avait un problème de compréhension. Parce que si la sensibilisation n'est pas arrivée à un certain niveau, on va toujours penser. Mais maintenant que les situations sont réelles, ils ont vu les gens à l'œuvre, ils ont vu que. Dieu merci, il y a eu des agents de santé contaminés, mais la majorité, ce n'est pas aussi des agents de santé. Je parle sous le contrôle de mon médecin. Donc, ceux qui sont sur le site, je crois que c'est une belle démonstration de l'histoire, parce qu'on pensait qu'ils sont les premiers exposés, mais l'histoire a démontré que ce n'est pas toujours eux qui sont attaqués.
D'accord.
Donc, ça veut dire que quelque part, il y a une qualité dans la chaîne, dans la rupture des chaînes de contamination. Donc, mm-hmm. les mesures barrières sont quand même respectées mm-hmm. jusqu'à un certain niveau.
D'accord.
Donc, maintenant, ce qu'on va continuer à faire, c'est toujours ces mêmes barrières-là qu'on va continuer à faire, mais intensifier. Parce mm-hmm. que là, il va falloir penser au-delà. Parce que cette maladie, je ne sais pas, docteur, vous êtes un futur, à quand ça va nous quitter. Donc, on est obligé de continuer sur les mêmes mesures, mm-hmm. Sur le lieu de travail,
dans
la rue. Dans la rue et en famille. Il y a toujours des manières de faire. Par exemple, je sais qu'il n'y a aucun agent de santé qui n'a pas perdu plusieurs tenues pour rompre cette chaîne parce qu'il fallait désinfecter, il fallait. Mais mieux vaut ça que transporter les germes.
Merci à vous. Docteur Hanki, je termine avec vous. Quel conseil ou bien que dire à toute la population face aux multiples tâches auxquelles vous êtes confrontés, les stress et autres que vous, agents de santé? Que dire à toute cette population pour finir?
Merci. Et pour finir, d'abord, je dirais que cette maladie-là, la COVID, que Dieu continue à nous protéger, que ça n'ait pas l'impact que ça ait ailleurs. Mmh. Mais malheureusement, je pense qu'il a un peu introduit cette maladie. On risque désormais de vivre avec.
Mmh.
Et quand on dit qu'on va vivre avec une maladie, ça veut dire que nous devons continuer à respecter les certaines mesures barrières.
Mmh.
Mais le plus important pour moi, à la population, c'est de croire et de supporter les agents de santé. Nous ne sommes pas politiques, nous ne sommes pas contre notre population pour l'Occident. On veut aider, on veut qu'on nous aide pour aider.
D'accord.
Et de croire sincèrement à notre sincérité que ce n'est pas de l'intérêt de qui que ce soit, c'est de l'intérêt de notre population.
Merci à vous. Les travailleurs de santé, malgré leurs propres craintes bien fondées, s'engagent directement dans le combat contre la COVID-19 ici au Niger pour aider les personnes atteintes de cette maladie et contribuer à stopper même la propagation du virus. Nous devons donc donner à ces travailleurs de la santé tout le soutien dont ils ont besoin pour faire le travail, être en sécurité et rester en vie. Et c'est ici que prend fin ce débat. Nos remerciements à l'endroit de nos invités, Dr Hanki Yahaya, il est médecin infectiologue à l'hôpital national de Niamey, Major Garba Yunusa, il est infirmier à l'hôpital de référence de Niamey. Merci à vous. À la technique, c'était Issa Lawali. À la régie vidéo, Mustapha Ayuba. À la présentation, c'était Nafissa Lamsirfo. À très bientôt pour une nouvelle thématique sur le studio Kalangou.